je vous propose aujourd'hui de partager quelques pensées sur un texte de la première épître de Paul aux Corinthiens et qui se situe dans le chapitre 5, les versets 9 à 13. Mais avant qu'on lise le texte, il est important de bien prendre conscience d'un ensemble d'éléments de contexte. Dans son second voyage missionnaire en Europe, Paul passe de Macédoine en Grèce et ensuite arrive d'Athènes à Corinthe. Et d'ailleurs, on pourrait se dire, voilà, certainement, là, l'apôtre Paul va arriver à Corinthe tout fleu, tout flamme, en super forme. Ben, quand vous lisez un peu la première épître de Paul aux Corinthiens, on dirait l'état dans lequel Paul arrive d'Athènes à Corinthe, on dirait qu'il n'est pas au top de sa forme. Parce que il nous dit lui-même dans 1 Corinthiens 2, au verset 3, « De plus, quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. » Parce qu'effectivement, l'annonce de l'évangile à Athènes n'avait pas été non seulement de tout repos et avait été difficile, même si on apprend que malgré ces difficultés, ben, y a quand même quelques personnes qui s'étaient ouvertes et converties à l'évangile. Et donc, il arrive à Corinthe. Chose pas plus facile, et surtout quand on se dit, ben, il n'est pas en grande forme. Hein. Parfois, on attend des serviteurs de Dieu que, voilà, il soit toujours au top, top, top. Là, il arrive, nouveau défi à Corinthe, et il se sent bien faible. Corinthe, c'était la deuxième ville de l'Empire après Rome, avec une population, j'ai juste mis quelques éléments, alors certains pensent qu'il y avait un peu plus d'un demi-million de personnes à l'époque, et d'autres statistiques vont jusqu'à nous dire 600 000 à 700 000 personnes qui vivaient dans cette ville de Corinthe. Bon, Corinthe, c'était un commerce florissant, le tourisme aussi concourait à la richesse de cette ville. Et puis, même tous les deux ans, il y avait à l'occasion des célèbres jeux isthmiques, de nombreux athlètes, des centaines d'athlètes qui venaient concourir dans cette ville. À côté de ce côté, on va dire, luxueux, richesse, commerce, aussi une grosse vie culturelle, bon, il y avait des aspects un peu moins positifs. La réputation de Corinthe au temps de Paul était plutôt douteuse. Il y avait d'ailleurs un terme qui était utilisé à l'époque qui était corinthisé. Alors, corinthisé, ben, ça désignait notamment la prostitution qui régnait dans cette ville. Et puis il y avait une maladie vénérienne qu'on appelait le mal de Corinthe. Donc ça vous donne un peu le contexte. Donc Paul arrive à Corinthe. Tu peux juste une... Voilà, alors je sais pas, la carte, vous la voyez d'un peu loin, et moi encore plus. on voit que dans son second voyage missionnaire, il arrive de Athènes, il se retrouve à Corinthe. Et puis si on voit, il y a une autre ville qui peut nous intéresser, parce que c'est de là qu'il va rédiger plus tard cette lettre aux Corinthiens, qui est la ville d'Éphèse. Bon, tu peux revenir en arrière. Donc dans ses lettres, d'ailleurs, Paul nous parle de plusieurs séjours à Corinthe. Il semble qu'il soit venu au moins trois fois dans cette ville de Corinthe. Et dans sa première lettre, qui va nous concerner ce matin, il rappelle d'ailleurs son premier séjour. Il dit « Quand je suis venu chez vous, mes frères ». Et puis il leur dit même « Je reviendrai bientôt chez vous si le Seigneur le veut » dans 1 Corinthiens 4 au verset 19. Dans sa seconde lettre, il projette une troisième visite. Bon. Paul arrive, là aussi c'est Certains pensent qu'il est arrivé entre l'an 50 et 52, d'autres nous disent qu'il arrive vers l'automne 52 dans la ville de Corinthe et il va y rester un temps long pendant 18 mois. Il va loger, tu peux avancer, il va loger chez un couple, Aquilas et Priscille, et en fait il cumule à la fois le travail, on pourrait dire professionnel, et son travail d'évangéliste. Et dans ce cadre pourtant difficile, une église est créée, une église est fondée, composée en grande partie de païens. Donc ensuite, Paul y part pour la Syrie, et après un quatrième voyage à Jérusalem, il arrive à Éphèse, et c'est là, on a presque fini pour les éléments de contexte, que pendant 3 ans, il va séjourner à Éphèse, et c'est à Éphèse qu'il va écrire cette première épître, cette première lettre aux Corinthiens. Alors, ce qui est encore important de comprendre, c'est que l'apôtre Paul a eu un ensemble de nouvelles de cette église, hein, et donc de cette église voilà, qui était née, de cette église voilà, qui s'est développée, et les nouvelles ne sont pas toujours forcément très très réjouissantes. Il apprend que dans cette église de Corinthe, il y a des tensions, des divergences. Cette église, il y a eu des groupes qui se sont formés autour de certaines personnalités. Alors certains disaient, eh ben moi je suis plus de Paul, hein, voilà, moi d'Apollos, moi de Pierre. Il y avait aussi des tensions dans cette ville entre la situation des chrétiens. Certains étaient hommes libres, d'autres étaient esclaves, certains étaient d'origine juive et, je l'ai dit, beaucoup étaient d'origine païenne. Et puis, et ça va concerner le texte qu'on va lire, et puis l'apôtre Paul apprend aussi malheureusement qu'il y a des problèmes de mœurs. Alors, de nos jours, avec les technologies modernes, je pense que l'apôtre Paul aurait appris ça, il aurait peut-être dit « on va faire une visioconférence » pour mettre les choses au point, ou avec les responsables de Corinthe, il aurait peut-être dit « on va se faire un Skype », ou alors il aurait écrit un ensemble de choses qu'il aurait envoyées par mail, mais à l'époque, ben, il n'y avait que l'écrit, et puis ce n'était pas chronopost, hein, ça mettait un certain temps à ce que cette lettre arrive. Mais on peut se mettre dans la tête de Paul. Il apprend des choses, il est loin, hein, c'est comme si aujourd'hui vous appreniez des choses importantes et vous dites bah, « je suis à 500 km ou à 1000 km de là où ça se passe et j'ai aucun moyen d'intervenir si ce n'est peut-être dans un premier temps de prier pour cette situation et puis dans un deuxième temps, bah, je me pose, je me prends le temps pour écrire à ces chrétiens » dans un esprit non pas de détruire, mais dans un esprit d'espérer que ces écrits vont contribuer, ces chrétiens, à réagir. Alors, je vous propose une première lecture du texte, et ensuite, parce qu'il n'est pas très long, et ensuite on va en faire une deuxième lecture, vous comprendrez pourquoi. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 5, les versets 9 à 13, j'ai pris la traduction du semeur, parce qu'il y a plusieurs expressions là qui ont particulièrement attiré mon attention. L'apôtre Paul dit au verset 9, « Dans ma dernière lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant dans la débauche. Mais je ne voulais évidemment pas dire par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui dans ce monde mènent une vie de débauche ou avec les avares, les voleurs ou les adorateurs d'idoles, car alors il vous faudrait sortir du monde. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec celui qui, tout en se disant votre frère, vivrait dans la débauche ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur. Avec des gens de cette sorte, il ne vous faut même pas prendre de repas. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu? Certes, non. Mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Ceux du dehors, Dieu les jugera. Mais vous, chassez le méchant du milieu de vous. On va en faire une deuxième lecture. Une chose que j'ai peut-être oubliée, c'est pas un élément de contexte de l'épître, mais c'est un élément de contexte pour moi. Hein, je tiens tout de suite à dire, vu qu'il y a quand même des choses un peu, voilà, un peu crues, saisissantes, voilà, que n'étant plus responsable, n'étant plus ancien de cette église, je ne suis au courant de rien. Hein, parce qu'il ne faudrait pas que je dise, voilà, donc c'est pas destiné là particulièrement à une situation qui serait au niveau de l'église de Palaiseau. J'aurais peut-être eu plus de difficultés à prendre ce texte pour prêcher dessus il y a 2-3 ans, lorsque j'étais, ou encore quelques années avant, lorsque j'étais ancien de cette église. Parce que parfois, on a été confronté à certaines situations, n'est-ce pas? Alors, on relit le texte. Dans ma première lettre, vous allez dire laquelle? En fait, l'apôtre Paul a écrit un ensemble de lettres. Alors certes, nous avons la première épître de Paul aux Corinthiens, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, mais il en a écrit d'autres. Et toutes les lettres de Paul ne sont pas dans les Écritures. Et donc cette lettre à laquelle il fait référence, nous ne l'avons pas dans le Nouveau Testament. Mais donc il leur avait déjà écrit une lettre. Donc il dit dans ma dernière lettre, « Je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant dans la débauche. » Et puis, on devine cela, ces chrétiens de Corinthe ont reçu cette lettre et ont dû dire « Mais, je sais pas, on n'est pas d'accord, ou alors il va trop loin, ou alors ceci, cela. » Donc il y avait eu certainement quelques incompréhensions. Et encore une fois, là, on ne prend pas le téléphone, on ne fait pas une visioconférence pour dire bah, « Écoutez, voilà, il y a eu certainement des petites choses là qui n'ont pas été tout à fait comprises. » Donc, il va essayer de clarifier sa position. Alors, vous allez me dire, il y a des choses en rouge et il y a des choses en bleu. Parce que dans ce texte, versets 10 à 13, et ça va être les deux axes des quelques point que je voudrais partager avec vous, c'est que dans ces versets 10 à 13, d'une part, il va aborder la problématique des relations avec les gens hors de l'Église, et puis il va aborder la problématique de choses qui se passent à l'intérieur de l'Église. Donc, verset 10, là, c'est par rapport à l'extérieur de l'Église. Il dit « Mais je ne voulais évidemment pas dire, vous voyez, clarifie les choses, par là qu'il faut éviter toute relation, c'est moi qui ai souligné toute relation avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie de débauche avec les avares. Alors, dans le contexte, les avares, c'était plutôt les gens qui faisaient preuve de malhonnêteté dans leur vie professionnelle ou dans le domaine de la finance, on pourrait trouver des exemples aujourd'hui, dans l'actualité, ça manque pas, qui mènent une vie de débauche ou avec les avares, les voleurs ou les adorateurs d'idoles. Car alors, il faudrait sortir du monde. » Verset 11 maintenant. C'est plus les mêmes personnes qui sont concernées. En bleu, non, je voulais simplement... Je sais pas, j'ai un écho là. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec celui qui, tout en se disant votre frère, vivrait dans la débauche. Donc là, maintenant, il est question de relation, il est question de l'Église. Et on peut toujours se dire, en se disant votre frère, est-ce que ça peut être le cas, des personnes qui disent « je suis chrétien, je suis... » et qui ne le sont pas en réalité, mais s'ils ne le sont pas en réalité, j'ai envie de dire, ils rejoignent la première catégorie de personnes, ceux qui sont en rouge. Donc on va partir de l'idée quand même que dans cette église de Corinthe, ce qu'il leur dit là, ça concerne des gens qui, à un moment donné, ont fait un vrai pas de foi, ont semble-t-il vraiment accepté le Seigneur dans leur vie. Donc je reprends, vivrai dans la débauche, ou serai avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur, d'ailleurs. Vous voyez que la liste même s'allonge un peu par rapport à... Avant, il était question d'avare, de voleur, d'adorateur. Là, il est question plus d'adonner à la boisson. donc il y a quelques qualificatifs qui se rajoutent, avec des gens de cette sorte, il ne vous faut même pas prendre de repas. Bon, là aussi, hein, le but ce matin, c'est pas d'aller trop loin. Certains commentateurs ne sont pas tout à fait non plus d'accord avec jusqu'où, qu'est-ce qu'il veut dire, il ne faut même pas prendre de repas. Alors, ce qui est évident, c'est que il leur dit, ben, c'est le repas communautaire dans le cadre de l'Église, et dans le cadre du repas communautaire se prenait la scène, hein, il n'y avait pas que la scène, mais évidemment dans le cadre d'un repas communautaire, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Est-ce que certains commentateurs vont même plus loin, ça veut même dire, voilà, il faut couper les ponts, il ne faut même pas prendre de repas privé avec la personne, bon, je ne m'aventurerai pas, voilà, parce qu'il y a peut-être même des situations où, imaginez, ça intervient à l'intérieur d'une même famille, la personne ne va plus manger avec son conjoint, bon, ça serait un peu, je trouve, difficile à appliquer. Ça ne veut pas dire, il me semble, qu'il faut couper tous les ponts avec cette personne qui, encore une fois, est un frère ou évidemment une sœur de l'Église. On continue. Alors là, maintenant, les derniers versets, versets 12 et 13, je vais dire le rouge et le bleu se mêlent, parce que il leur dit, est-ce, le rouge, c'est les gens hors de l'Église, est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu? Ben non, c'est pas votre rôle, c'est pas votre affaire. Par contre, mais, alors la façon même dont c'est traduit, ça m'a interpellé, mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Waouh, il est, c'est assez rude, hein. On repasse au rouge, ceux du dehors, Dieu les jugera, et on repasse au bleu, mais vous chassez le méchant du milieu de vous. Alors, voyez que les deux problématiques, tu peux les afficher, et c'est peut-être des questions qu'on peut être amené à se poser. Peut-être qu'en tant que chrétien, en tant que chrétienne, je m'adresse aussi aux jeunes, parce qu'on est tous passés par là, c'est de dire, mais en tant que chrétien, chrétienne, quelle doit être mon attitude? Quelle est ma responsabilité par rapport, entre guillemets, au monde, à ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, qui ne partagent pas forcément les mêmes valeurs? Quelle doit être ma position par rapport à ceux qui sont hors de l'Église et qui, dans ce contexte, hein, de la ville de Corinthe, qui est peut-être pas, on n'est peut-être pas toujours si loin que ça, hein, dans notre société actuelle, ont un comportement, une attitude non compatible. Moi, concrètement, hein, qui suis à l'école, au collège, au lycée, dans ma vie professionnelle, dans mes relations avec mes amis, mais quelle position dois-je avoir? La deuxième question, maintenant, qui concerne l'Église, quelle doit être mon attitude, quelle est ma responsabilité quand il s'agit de l'Église, d'un frère et d'une sœur? Alors, évidemment, on va dire, c'est la responsabilité des anciens et des diacres de l'Église de gérer ce genre de situation. Évidemment, c'est leur responsabilité. Pour autant, ça ne nous dédouane pas forcément en tant que frères et sœurs qui pouvons parfois être au courant d'une situation, de dire oh « bah c'est juste au responsable de gérer cela », peut-être que nous aussi, nous avons à prendre position. Alors, je ne vais pas être très long, mais quelques principes, me semble-t-il, hors de l'Église. Voilà, le premier, c'est ce que l'apôtre Paul a rappelé à ses chrétiens. Vous vivez dans le monde. Évidemment, et j'allais dire même heureusement, que vous côtoyez des personnes qui ne partagent pas forcément les mêmes valeurs que vous. Et puis d'ailleurs, attention, hein, c'est pas parce qu'ils sont d'ailleurs pas chrétiens que parfois ils ne peuvent pas ne pas partager aussi des valeurs qui sont les nôtres. Hein, donc, le raccourci, parfois, c'est facile. L'Église, ouais, c'est tout beau. Et puis ceux qui sont hors de l'Église, c'est le monde. Surtout, pas de relation avec eux. Hein, j'exagère un peu. Je crois que c'est pas un bon état d'esprit à avoir. Donc, moi, j'ai rajouté, n'ayez pas peur. Parce que comment est-ce qu'on pourrait évangéliser, partager notre foi avec les gens si on avait cette attitude, oh là là, si c'est pas dans le cadre de l'Église, si c'est le monde, surtout pas de relation. Bon, c'est une opinion personnelle là que je vais donner sur un point particulier. Moi, dans ma profession, je suis amené parfois à faire ce qu'on appelle souvent contrôle d'instruction dans les familles. Le contrôle d'instruction dans les familles, c'est les familles qui ont le droit, de scolariser leurs enfants chez eux. Voilà. Bon, donc il y a un contrôle qui est fait. Il me semble que normalement, ça devrait être réservé à des situations particulières. Voilà, un enfant qui a un souci particulier, phobie scolaire, des choses comme ça. Mais dans la réalité, je ne parle pas forcément des chrétiens, dans la réalité, vous vous rendez bien compte qu'il y a souvent, assez souvent, des motifs religieux. Bon, si on l'applique à nous-mêmes, moi ça me semblerait, tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, je ne vous demande pas, mais si en tant que chrétien on dit « Ouh là là, mes petits, les mettre dans l'école publique, tout ça, ils vont être en danger, les pauvres petits bouts de choux, il faut les instruire chez nous, comme ça, on va les protéger. » Bon, je ne suis pas sûr que ça soit le meilleur moyen de les armer pour faire face à la réalité même, peut-être d'opinions et de valeurs différentes. Et donc l'apôtre Paul, il leur dit, évidemment, ce que je vous ai dit, c'est pas de sortir du monde, c'est pas de vous couper avec le monde. Vivant dans ce monde, tu peux continuer, dans ce monde, soyons un témoignage, utilisons les opportunités pour annoncer l'Évangile. J'ai dire, c'est même ce que vous avez fait hier en tant qu'Église. À la rigole, il y avait une après-midi crêpe-jeu. Si l'Église de Palaiseau annonce l'Évangile et aurait un projet d'implantation d'Église, je vais peut-être un peu loin, mais j'en ai entendu parler, et évidemment, l'Église doit être une Église ouverte sur le monde, et parce que tout le monde ne va pas forcément, comme vous ce matin, mettre les pieds dans l'Église, et même si on organise certaines choses à l'Église, il y a des gens qui mettront dans un premier temps jamais les pieds dans l'Église. Donc soyons et restons une Église ouverte sur le monde. Évidemment, et vous avez raison, la limite, bien entendu, et de ne pas adopter les valeurs morales contraires à l'Évangile. Et dans des situations parfois concrètes que peuvent surtout aussi rencontrer nos jeunes, au collège, au lycée, ou peut-être que vous rencontrez parfois dans votre vie professionnelle, évidemment, il ne nous est pas fort heureusement demandé d'adopter certains comportements, certaines valeurs. Mais pour autant, il ne s'agit pas d'en avoir peur, parce que en tant que chrétien, chrétienne, si on l'est vraiment, on sait en qui on croit, et je n'ai pas à avoir peur de cela. Point suivant. Bien entendu, je crois aussi qu'en tant que chrétien, nous avons, nous devons donner notre avis sur des questions morales et éthiques. La question du mariage pour tous, un certain nombre d'entre vous, à l'époque, ça commence même déjà à dater, vous avez été aller dans les manifestations pour manifester contre le mariage pour tous. Si aujourd'hui on n'a pas des positions claires sur certaines questions morales et éthiques, c'est gênant, c'est plus que gênant. Donc on a un rôle de prendre position. Et on a d'ailleurs aussi des fédérations d'église qui sont là par rapport aux autorités pour dire, en tant que chrétien évangélique, voilà notre position sur telle ou telle question éthique. Mais une fois qu'on a fait ça, l'apôtre Paul, c'était en rouge tout à l'heure, il dit clairement, nous n'avons pas à juger les personnes du dehors. Notre rôle est de quoi ? Notre rôle est d'aimer ces personnes, d'annoncer le chemin de la délivrance. Le jugement, c'est l'affaire de Dieu. Donc là, l'apôtre Paul, bah, il dit à ses chrétiens, ceux du dehors, voilà, c'est Dieu qui les jugera. C'est pas votre affaire. Donc je pense que même pour nous, parfois, bah, parler longuement, tel copain de classe, telle copine de classe, tel collègue, tout ça, enfin, attention, justement, on peut se tromper aussi. Quand je vois comment ils vivent, tout ça, j'ai presque envie de dire, enfin, pas tout à fait vrai, c'est normal. Je veux dire, tant que je n'ai pas accepté le Seigneur dans ma vie, il y a des choses que je ne vois pas, quoi. Bon, voilà, je ne suis pas en train de dire que ça doit être la porte ouverte à n'importe quel comportement, mais moi, que certains collègues de travail vivent de telle ou telle façon et que je ne partage pas cette façon de vivre, c'est comme ça. Mon rôle n'est pas de les juger. Notre rôle est d'être un exemple, mais surtout de qu'ils comprennent pourquoi nous, a priori, on l'espère, on vit différemment. C'est le pourquoi qui est important, parce que si je n'avais pas rencontré le Seigneur, peut-être que mon comportement, même moral, tout ça, serait peut-être pas celui qu'il est aujourd'hui. Donc gardons-nous de juger et ne perdons pas de temps avec cela, parce que notre tâche, elle est autre part, c'est d'aimer ces gens et de justement leur dire que quelqu'un les aime, c'est le Seigneur, et qu'après, une fois qu'ils auront rencontré le Seigneur, il y a peut-être des choses qu'ils verront, enfin, forcément différemment. On passe au deuxième point. Mais maintenant, dans l'Église, et là, vous voyez, le discours de l'apôtre Paul va changer. Paul affirme très très clairement, si cela se produit en interne, alors là, tant il a dit avant, ne jugez pas, là, il dit, c'est votre affaire. C'est votre affaire. Il y a le terme juger qui est utilisé, alors il faut bien le comprendre. C'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Alors là, parfois ça se complique. Parce que là, quand il y a des situations un peu délicates, voilà, comment les gens réagissent ? Bon, déjà, parfois les gens concernés, justement, il y a deux réactions possibles. Soit la personne, effectivement, elle dit, voilà, elle comprend qu'elle a fait fausse route, elle s'humilie, elle se repent, et j'ai presque envie de dire, déjà, l'Église ne sera pas au courant. J'ai envie de dire, c'est gagné, quoi, et c'est l'objectif. Et puis, parfois, vous avez la deuxième catégorie de réaction. Mais t'es qui, toi, pour me juger ? Là, en général, c'est mal parti. Parce que là, la personne, elle ne veut pas reconnaître le péché, elle ne veut pas reconnaître ce que finalement la parole de Dieu dit. Et là, c'est difficile. Ou alors, vous avez, après, au niveau de l'Église aussi, parfois des réactions du style, quand même, là c'est en général, je ne vous le souhaite pas trop, mais ça peut vous arriver aux responsables, là franchement vous êtes trop dur. Là vous êtes trop dur, franchement on est au 21e siècle, de nos jours, enfin, franchement comprenez quand même que la moralité ça a un peu évolué quand même, franchement ouais. Le mariage vous êtes bien gentil quoi, le Pax ça suffit, et puis même ils vivent ensemble, franchement, ça, on est d'accord, ça y ressemble, c'est quand même, allez, vous feriez quand même bien d'actualiser un peu, mais actualiser quoi ? La parole de Dieu ? L'apôtre Paul, encore une fois, ça m'a même presque surpris quand j'ai relu ses paroles, il est, je dirais, a priori d'une dureté, c'est à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Alors, évidemment, évidemment que l'objectif n'est pas et n'est jamais de couper définitivement les ponts avec la personne en question. Il s'agit quand même de choses particulières, il ne s'agit pas de petites choses. Quand vous lisez le contexte de 1 Corinthiens 5, il est question à l'intérieur de l'Église, de cas d'inceste. Pas l'expression aujourd'hui, on dirait « je crois rêver, je crois faire un cauchemar, c'est pas possible !» Sauf que c'était la réalité à l'intérieur de cette église. Donc évidemment que l'objectif n'est pas de couper les ponts, et encore moins l'objectif n'est pas de condamner une personne. Le but est toujours, et doit être dans notre esprit, que la personne revienne à Dieu, que la personne revienne au Seigneur. Par contre, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est jusqu'où avons-nous encore le courage d'adopter une position claire quand il s'agit de situations que j'appellerais épineuses. Là aussi, la parole de Dieu, fort heureusement, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, nous donne des démarches à suivre. Il s'agit, alors, encore une fois, c'est le rôle des responsables de l'Église, mais vous savez, les responsables de l'Église ne sont pas toujours au courant de tout. Et parfois, ils apprennent des semaines, des mois, voire parfois des années plus tard, certaines choses qui se sont passées, où il aurait été peut-être souhaitable qu'ils soient au courant, mais ils ne l'ont pas. Alors, si la situation s'est réglée, tant mieux. Si la situation ne s'est pas réglée, et s'ils ont été même piégés, c'est un peu plus embêtant. Mais voilà, la démarche à suivre, c'est toujours, si quelqu'un apprenait, tel frère, telle sœur, c'est d'aller voir la personne. C'est d'aller voir la personne, de ne pas commencer à ébruiter cela, et si possible, que la personne se rende compte qu'elle fait fausse route, et voilà, et puis encore une fois, ça peut se régler comme ça. Ce n'est que si la personne vraiment persiste dans un comportement qui n'est pas possible dans le cadre d'une église, ce n'est que dans ce cas-là qu'évidemment, et là c'est comme ça, qu'il faut le dire à l'ensemble de l'église. Voilà, bon, ça me rappelle des mauvais souvenirs, mais évidemment, voilà. Juger de la part de l'homme, même dans ces cas-là, ne va jamais jusqu'à empiéter sur le jugement seul définitif de Dieu. Alors pour terminer, on peut quand même se poser la question, pourquoi une position aussi tranchante, peut-être que le mot aussi dur, de l'apôtre Paul? Je pense qu'il y a deux facettes, d'une part pour l'Église et d'autre part pour la personne concernée. Si l'Église est vraiment un corps, ce qui arrive à un des membres du corps concerne aussi l'autre. C'est vrai pour tous les moments positifs, les moments de joie. Ce qui est positif dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un frère, ne soyons pas jaloux. Lorsqu'il y a des bonnes nouvelles, on forme une Église. Des bonnes nouvelles, c'est bien de se réjouir de telle sœur, de tel frère qui nous annonce une bonne nouvelle, qui avance avec le Seigneur. C'est aussi notre affaire. Quand c'est moins réjouissant, ça peut être effectivement des difficultés où là on dit on lutte avec toi, on combat avec toi, oui, c'est notre affaire. Et puis, quand c'est des situations malheureusement comme celle qui était à l'ordre du jour dans l'église de Corinthe, je ne peux pas dire « c'est pas mon affaire ». Parce que quelque chose, quelque part, ce qui arrive à ma sœur, à mon frère, quelque part, il fait partie de l'église, du corps qui symbolise l'église. Donc, quelque part, même si c'est évidemment à moindre mesure, mais quelque part, ça me concerne aussi. Donc l'apôtre Paul ne peut pas, apprenant ces choses, laisser faire comme si de rien n'était, parce qu'il se dit, l'Église peut être en péril, et puis il faut réagir. Et puis, évidemment, c'est pour la personne concernée aussi elle-même, encore une fois, jamais dans notre pensée, ça doit être de condamner la personne, encore moins que de dire, bah, si c'est comme ça, vaut mieux qu'elle parte et qu'on la revoie plus jamais. Non, le but, c'est que la personne reste, enfin, ou revienne plutôt au sein de l'Église et que, voilà, elle puisse continuer à un moment donné son chemin avec le Seigneur et que ces choses, pourtant, voilà, qui peuvent nous surprendre, et j'espère, hein, je suis au courant, hein, que ça ne concerne absolument pas notre Église locale, mais si à un moment donné, il y a des questions comme ça épineuses, ben, voilà, l'apôtre Paul, là, il dit, à l'intérieur de l'Église, là, c'est à vous de prendre les choses par le bras du corps, c'est à vous de les gérer. Alors, conclusion, parce que je vais laisser du temps à notre sœur Françoise Dossmann pour qu'elle puisse partager ensuite un ensemble de choses, donc je ne voulais pas être trop long. Donc, en conclusion, ben, c'est peut-être à moi de voir quelle mise en pratique concrète, hein, quelle mise en pratique concrète dans ma vie avec ben, mes amis, où est-ce que je situe moi-même la frontière entre ben, ce qui, éventuellement, dans mes relations avec mes amis non-chrétiens, pourrait éventuellement être source ben, de quelque chose qui pourrait m'entraîner voilà, sur un chemin glissant. Mais, comme je l'ai dit, au contraire, ne pas avoir peur. Dire, voilà, j'ai des relations hors de l'Église, même peut-être, et c'est très bien, vous êtes engagé dans un club, une association de ceci, de cela, de... je ne sais pas, de fitness ou de... Voilà, et puis c'est très bien, parce que sinon, comment voulez-vous développer des relations avec les gens de l'extérieur? Bon, alors, si ça vous empêche de venir à l'église, c'est plus gênant, hein, mais bon. Mais sinon, voilà, développons notre relation, soyons une église ouverte. Et puis, ben, après, ça me concerne, peut-être la question, c'est est-ce que j'ai conscience que moi, chrétienne d'une église locale, oui, mon comportement, ma vie, que les autres le voient ou ne le voient pas, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément toujours envie que les autres voient, hein, ou dire « Oh, waouh, s'ils savaient bah, !» Il est mieux qu'ils ne sachent pas, quoi. Mais est-ce que j'ai conscience que à travers ma vie de chrétien, chrétienne, je suis dans une église locale, ben oui, ça a un impact. Ça a un impact sur peut-être l'avancement de l'Église, parce que je ne peux pas mener une vie, même si les autres ne le voient pas, qui serait non conforme à l'Évangile sans que ça impacte l'Église. Quelque part, ça l'impactera forcément, que ça se sache ou que ça ne se sache pas. Donc, là aussi, ben, ayons ce sens des responsabilités, et si malheureusement, et j'espère que ce n'est pas le cas, il y avait des questions épineuses à trancher, ayons le courage de les trancher, non pas dans un esprit de condamnation, mais dans un esprit parce qu'on aime la personne et qu'on ne souhaite pas qu'elle continue à aller sur un faux chemin, mais qu'elle s'accroche au Seigneur et qu'on puisse continuer à avancer ensemble avec elle. Amen.